du Coq à l'âne.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bon dimanche.
Bon dimanche, sous vos applaudissements.
Nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette table pour le numéro 612 du Coq à l'âne avec Jean Cointe.
Bonjour, messieurs, dames.
Bruno André.
Bonjour à tous.
Patrick Faure.
Bonjour.
Michel Roussel.
Bonjour.
Et notre invité, Christophe Pirel.
Bonjour.
Salut, Christophe. François Hollande.
Alors, d'habitude, quand même, il y a des introductions, il y a des choses avant qu'il en arrive directement à François Hollande. Normalement, on passe un peu de temps, tu vois.
Des fois, quand ça arrive, ça prévient pas. Hein.
Ah bah, pour moi, c'était direct.
Voilà.
Vas-y.
François Hollande, toujours le mot pour rire.
Oui.
Hein, c'est vrai. Mais toujours donneur
le
de leçons.
Le mot bien placé.
Toujours le petit mot. Mais toujours donneur de leçons. Je suis toujours admiratif, moi, personnellement, des politiques qui ont été aux affaires et qui n'ont pas particulièrement, on va dire, brillé, hein, et qui se permettent aujourd'hui de donner des leçons. Malgré le fait qu'il insiste, à la fin de son intervention que vous allez écouter, sur le fait qu'il n'y a rien de pire pour un citoyen que de se faire donner la leçon. Et c'est une leçon signée François Hollande.
Comme président, je savais que la question des prix des carburants était une question très très sensible. Et dès le début de mon mandat, le prix du pétrole avait atteint son sommet historique. J'en avais vu les conséquences, y compris sur ma popularité. C'est assez indexé. Plus le prix monte... Plus vous descendez. Alors après, il y a des plafonds et des planchers. Mais quelquefois, les plafonds peuvent être crevés et les planchers aussi. Alors, je sentais bien que cette question-là pouvait être, si je puis dire, inflammable. Et qu'il fallait faire attention, tout simplement reconnaître que ce sujet existait. Et pas faire la leçon. Il n'y a rien de pire que pour un citoyen de se faire donner la leçon.
Ah, c'est magnifique.
Bah, il a pas donné la leçon.
Oh, arrête.
C'est sûr, il réclame. Non,
mais... mais non, mais il explique. Mais je trouve ça drôle quand même de dire que la popularité du président est fortement indexée sur le cours du pétrole. Mais moi, je trouve ça plutôt marrant.
C'est ce que je te dis.
Non, mais il a de l'humour. Qu'est-ce que tu te dises? Moi, j'ai.
Non, c'est vrai.
Il est un mec. C'est quelqu'un qui est profondément drôle, qui a de la finesse.
Pendant 4 ou 5 ans, on n'a pas trop rigolé quand même.
Non, mais ça
nous a fait.
Mais d'ailleurs, je pense qu'effectivement, il s'est un peu trop bridé. Mais non, mais qu'est-ce que tu. Mais je trouve pas qu'il donne la leçon là. Il explique une chose qui est vraie, c'est que le cours du pétrole, il influence pour le coup la popularité des politiques qui sont en tête.
Et toutes les politiques.
Mais Emmanuel Macron, il y a un double phénomène. Il y a la taxe carbone, mais aussi l'augmentation du cours du pétrole qui est venue impacter. Directement son mandat et son nez les gilets jaunes de ça. C'est pas de donner la leçon que d'expliquer ce qui arrive. C'est un fait politique.
Mais c'est très rigolo.
En fait, François Hollande défend Emmanuel Macron.
Ouais.
En disant que c'est pas de sa faute s'il est pas populaire.
Jeannot,
il n'y a pas toute la responsabilité.
Non, je dirais que c'est un cas à leçon parce que.
le dimanche matin, parce qu'elle sort pas frais, ça fait pas.
Je dirais qu'il a une bonne carrière devant lui qui se présente comme fantaisiste ou comme, on va dire. Meneur de revue, je ne sais pas vraiment ce qu'il va faire, mais
humoriste,
oui.
Bah, remplacer.
Ouais.
J'ai beaucoup apprécié ce drame affreux qu'il a subi pendant son mandat avec effectivement cette pièce de boulevard intitulée Merci pour ce moment.
Ah oui.
Et là, on a bien rigolé quand même.
Oui, c'est vrai que c'était pas mal.
Lui, je ne crois pas beaucoup, mais
comme disait Pierre Dac, monsieur a son avenir devant lui, il aura dans le dos à chaque fois qu'il fera demi-tour.
Eh bien,
Marc, avec là. Macron, c'est Bercy pour ce moment.
Oui, c'est ça. Alors, évidemment.
Donc, il fallait me dire qu'il fallait venir avec des calembours.
Ah ben, j'en ai fait plein. Et puis, il y a Jeannot. Hein.
Mais c'est ça, j'avais pas anticipé.
Non, alors, Jeannot, on a soirée pleine.
Ah, de soirée complète.
Non, matinée.
Matinée, pardon.
Oui, matinée.
Matinée.
Ce que vous dites.
Donc, chanson, évidemment. Vite fait.
Ça, c'est bien.
Petite chansonnette rapide pour, évidemment, François Hollande, Christophe Pirel. Christophe Pirel qui n'a qu'une envie, c'est le retour de François. Alors. Faut pas que je la rate là, ça fait.
Viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi pépère, viens, viens pour Pirel, viens, viens. Il se meurt de toi, rien, rien, que tout recommence, rien, rien, sans toi l'existence, rien, rien, n'est qu'un long silence, rien, rien, qui n'en finit pas, Je sais bien ton quinquennat fut sordide. Infléchir la courbe du chômage impossible. Je sais que tu as été mal jugé, mais tu peux te racheter. Tu vois bien qu'avec Macron, ça déraille. Qu'avec les gilets jaunes, c'est plus durable. Que tu reprennes en main notre destin pour nous amener plus loin. Rien, rien, Pierrel le bosseur, viens, viens, à Repin scooter, viens, viens, et pour la chandeleur, viens, viens, des croissants au beurre, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi pépère, viens, viens. Reviens pour Pirel, viens, viens, il se meurt de toi.
Oh, le dimanche matin, tu te lèves du banquier. Là.
L'incarnation de la chanson. Ah,
mais... Non, mais il a vécu. Là, c'est venu du fond du cœur. Moi, là, franchement, bravo, Thierry.
Nous, à un moment donné, on a vu apparaître Roland.
Moi, au bout du scooter, j'ai eu l'impression qu'il
était derrière.
Qui est-ce qui chantait ça au départ?
C'était Marie la forêt, c'est ça. Oui, oui. Ah, tu sais. Alors, la vanne, vas-y.
Non, non, j'ai rien dit. Non.
La forêt, non, je pensais que t'allais nous faire dit, le single.
Tu sais à qui tu feras plaisir?
Non.
À mon papa.
Ah bon? Ah oui, parce que ton papa, il aime bien les...
Mon papa est fan de tes chansons. Bon. Et je pense qu'il y a une personne au monde...
Je croyais de la forêt, moi, totalement pas compris.
Il adore. Il adore, et je pense qu'effectivement, le jour où tu sors ta compile...
Oui.
Il sera le premier à l'acheter.
Mais ça sera le seul, parce que moi, il me le file, le disque.
Ouais. C'est bien. En fait, je pense que Thierry cache très bien la forêt.
C'est l'arbre.
C'est l'arbre.
C'est l'arbre, je suis l'arbre. Bon,
non, bravo, très bien.
Revenons aux choses sérieuses quand même, parce que là, on plaisante,
en fait,
on plaisante.
C'est son art qui cache la forêt.
Ouais. C'est tout à fait.
Son art, oui.
Revenons à l'immunité pour les gilets jaunes. Voilà. Alors ça, c'est une idée qui a mûri dans la tête de Leleu, non pas de Leleu, de Levavasseur, hein, qui a eu une idée pour les gilets jaunes. Mais quoi, qu'est-ce qu'il... Non,
je lis la phrase qui est en dessous de ton lancement.
Pourquoi?
Sur Levavasseur, là.
Ouais. Ah oui, elle se touche. Oui, bien sûr, tout à fait.
Mais comment ça?
Mais oui, elle se touche un peu la nuit. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Mais... Non, mais tu as raison. Mais pourquoi tu regardes ça? Il ne faut pas regarder les
titres. J'ai été attiré, si tu veux, sur ta phrase de lancement, ça m'a fait peur.
Donc, je vais vous faire écouter ce qu'a dit donc, le Vavasseur à Édouard Philippe. Et... Ouais, je sais, mais je la fais tous les dimanches. Hein.
Thierry Mamaslis.
Voilà, c'est ça, avec Christophe Pied-Pirel. Et donc... Voilà ce qu'elle a dit, ça se passait sur le plateau de...
LCI.
Ah, c'était LCI?
Si, c'était avec Édouard Philippe, c'était LCI, non?
C'était la soirée, là, où il y avait des gilets jaunes face à Édouard Philippe.
C'était LCI, je crois.
Ah, écoutez.
Descendu dans la rue pour manifester, pour dire combien on souffrait. Vous avez répondu par la violence. Nous nous sommes défendus. Maintenant, je vous demande, à vous et au président de la République, de cesser toutes les procédures en cours ou d'effacer les peines encourues sur les gilets jaunes. Je vous demande à vous et au président de la République, vous avez ce pouvoir, non, par l'amnistie, par le code pénal, la
tout,
loi 133-9.
Pas du tout.
Absolument. Vous avez du tout pouvoir. Donc je vous demande c'est l'amnistie des gilets jaunes.
Pardon, mais vous n'avez pas raison, madame, de ce point de vue-là. Vous avez dit que vous n'avez pas commencé à manifester et à descendre dans la rue pour vous faire taper dessus. Pardon, mais les fonctionnaires de police et les gendarmes qui sont descendus pour assurer l'ordre, ils ne sont pas non plus venus pour se faire taper dessus. Or, pourtant, vous savez très bien, il y a eu des images d'une très grande violence, il y a eu des attaques d'une très grande violence. Et moi, je considère qu'elles ne sont pas acceptables. Je le dis comme je le pense. Que agresser un fonctionnaire de police ou un gendarme ou des pompiers.
Mais bien sûr, mais là n'est pas le problème.
Très bien, madame.
Excusez-moi, on peut parler aussi de sexisme. On peut parler de tous les sujets à ce moment-là.
Vous êtes bien d'accord avec moi sur le fait que ça n'est pas acceptable. Il n'est pas question, vraiment, il n'est pas. D'abord, parce que je n'en ai pas le droit, il n'est pas question d'interrompre des procédures judiciaires. Si les procédures judiciaires sont en cours, le Premier ministre, il n'a pas le droit, il n'a pas le pouvoir de les arrêter. Vous parlez d'amnistie, ça n'existe pas l'amnistie du Premier ministre. Il peut y avoir une loi d'amnistie. C'est pas la mode. Et j'y serai opposé. Parce que quand vous voyez des gens qui saccagent l'Arc de Triomphe, je n'ai aucune envie de leur dire « Allez, c'est pas grave ». Quand vous voyez des gens qui attaquent des policiers et des gendarmes, quand vous voyez l'homme, parce que je crois que c'est un homme, qui a brûlé le camion des forces sentinelles devant la Tour Eiffel, alors que nous savons, vous et moi, que les militaires des opérations sentinelles, ils sont là pour protéger les Français contre le risque d'attentat, vous voudriez qu'on dise à ce monsieur qui brûle le camion sentinelle, bon, ouais, c'est pas grave. Mais si c'est grave, je considère que lorsqu'il y a des actes illégaux qui sont commis, ils doivent être punis.
Voilà, donc l'avis d'Edouard Philippe. Alors ben, on va faire un tour de table. Votre avis sur la question, est-ce que ça serait une bonne idée de faire comme en 68 hein, où on a absous tout le monde, hein, c'est ça en gros ce qui s'est passé, Jeannot?
Pas vraiment, non.
Ah ben si, ça s'est passé comme ça.
Non, il n'y a pas eu de loi d'amnistie, non.
Ah ben si, ils ont tous été amnistiés. Ah ben attends, depuis deux jours, ils parlent que de ça. Ils disent qu'en 68, ils avaient fait ça. Moi, je me souviens pas, j'étais petit, mais bon...
Moi, je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu une loi d'amnistie particulière en 68.
Ah, ils ont tous dit...
Je crois qu'il y a eu une partie qui a été amnistiée, mais le contexte était quand même un peu différent.
Oui, oui, non, mais je prends l'exemple de 68, parce qu'en 68, ils l'ont fait, oui, quand même. Et c'était après.
C'était après les Bien événements. Sûr,
là, oui, oui. Oui, oui là ça, c'est vrai que ça donne un signal quand même un peu rigolo.
Bah là, ça veut dire, genre, en gros, les gars,
allez-y, les gars,
le prochain, vous pouvez y aller. Hein.
Oui. De toute façon,
c'est freestyle, on peut y aller, de toute façon, on est face au...
Une loi d'amnistie n'est peut-être que votée par le Parlement.
Oui, oui, tout à fait.
Mais enfin, on est dans un état de droit, faut peut-être arrêter quand même un moment. Alors, en même la responsabilité, elle est des deux côtés, comme dirait le président. En même temps, ouais, il faut que tout le monde soit responsable.
Ouais.
Donc, il y a des cas, effectivement, de débordement, de casseurs, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a des gilets jaunes sincères qui sont là pour manifester, qui ont des convictions, des idées, des choses à porter, des revendications. Nous, à Gap, par exemple, les gilets jaunes, ils vont pas casser la préfecture, ils vont pas casser... Rien. Alors, ils cassent du péage, je veux dire, c'est pas forcément bien non plus, mais
ah bah non.
En même temps, aujourd'hui...
C'est... Bah dès l'instant que tu casses, c'est
nul. Parfois, ils cassent la figure aussi, hein, parce que...
Aussi. Oui, ça se... ils sont assez calmes par rapport à ce qui se passe à Paris.
Bien sûr.
En revanche, on ne peut pas admettre
Bordeaux,
et accepter,
Bordeaux,
mais à Bordeaux ou
Toulouse,
dans d'autres villes.
Toulouse,
on ne peut pas accepter que les gens détruisent des biens publics, privés ou autres, fracassent des policiers, des gendarmes, se permettent tout et qu'on se dise, bah, on va amnistier. Mais au même titre, d'ailleurs, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut parler du en même temps. Il n'est pas acceptable non plus qu'il y ait des débordements de la part de certains policiers. On a vu des images qui ne sont pas non plus brillantes. Mais on est dans un moment de crispation où, du coup, les gens, les uns ou les autres, commencent à dépasser les bornes, avoir des actes qui ne correspondent plus, à mon avis, même à leur réalité personnelle. C'est-à-dire que tu te retrouves pris dans un effet collectif où tu te dis que tout est permis, parce qu'il y en a certains qui, quand même... L'Arc de Triomphe, ça a été ça, si tu veux. Il y a des mecs qui se sont dit, tiens, ça y est, tout est permis, la vie est belle, on va pouvoir fracasser le truc de la Monnaie de Paris, récupérer de l'argent, allez. Non! On est dans un état de droit, il y a un moment où il faut le faire respecter. Donc là, moi, je suis assez d'accord avec Edouard Philippe. Il y a un moment où on ne peut pas tout se permettre. Donc les demandes un peu farfelues de ce type-là, bah, quand tu veux faire la révolution ou quand tu veux manifester, quand à un moment tu veux exprimer ton ras-le-bol, tu peux le faire dans la rue, calmement. À partir du moment où tu commences à saccager, bah, tu en prends la responsabilité. C'est-à-dire que tu sais que tu as une responsabilité et que derrière... Eh ben, tu peux être rattrapé par la patrouille et condamné.
Moi,
c'est normal.
Je ne pourrais pas me faire le défenseur de la police ni des CRS, mais si y a dans une manif, je ne sais pas, il n'y a pas de débordement, est-ce que les CRS vont déborder?
Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui...
Parce qu'on a le sentiment que les méchants, quelquefois, on a le sentiment, en entendant...
Mais parce que aussi, on a...
Que les méchants, ce sont les CRS.
Non, mais les méchants, ce ne sont pas les CRS, eux, ils maintiennent l'ordre.
Attends, tu connais Patrick Duf? Non. C'est Patrick Duf. Non, Patrick Dufresne, tu connais pas?
Non.
Le mec qui fait là, un relevé sur Twitter de toutes les attaques qu'ont subi les Gilets jaunes.
Oui, non.
Il fait un relevé.
Il fait un relevé à sens unique.
Quoi. Voilà, c'est le relevé uniquement
du côté des manifestants.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi de l'autre côté. Quoi.
Oui, mais.
Donc voilà,
non, mais, moi, mais c'est ce côté. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, tu as des forces de l'ordre qui sont fatiguées. Ça fait. Combien maintenant?
Trois mois.
Ça fait tous les samedis,
tous les week-ends.
Au bout d'un moment, 14 samedis là.
Donc, et en plus, on envoie des gens qui d'habitude sont dans des bureaux faire du maintien d'ordre et tout. Donc c'est pas évident. Tu leur mets un flashball entre les mains, c'est pas non plus le truc le plus évident à manier. Donc il y a des choses
là,
qui forcément
un peu,
se passent pas bien.
C'est pas eux qui ont mis le flashball dans les mains.
Il y en a beaucoup qui ont ça dans les mains et qui ont apparemment n'ont pas eu une vraie formation.
Ah, ouais, on les aura très vite pour pouvoir les mettre en
main. Ça peut être compliqué.
Je crois pas, mais je crois que par contre, là où tu as raison, Christophe, c'est qu'il y a un ras-le-bol des forces de police qui sont mobilisées depuis très longtemps. Comme le disait le Premier ministre, on est aussi sur Vigipirate renforcé depuis quand même
c'est clair.
Plusieurs mois, plusieurs années même, mais maintenant, il y a une menace terroriste sur la... C'est pareil, c'est les forces de l'ordre. C'est les forces de l'ordre.
C'est l'armée.
Oui, alors. Ouais, mais c'est quand même, il y a beaucoup de forces de l'ordre.
Même les forces de police sont mobilisées quand même.
Bien sûr.
Donc, il y a certainement. On consomme aussi des forces de l'ordre. Je pense que le mouvement Gilets jaunes devrait arriver à son terme assez rapidement parce que, de toute façon, c'est un peu la cacophonie. C'est aussi les gens. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les gens vont manifester pour s'affronter, que le dimanche ou le lundi, on compte les points d'un côté, du côté des CRS, du côté des Gilets jaunes, mais qu'on n'avance plus vraiment sur le fond.
Les yeux crevés d'un côté.
Et je suis quand même assez... je ne suis pas d'accord qu'il faille faire une loi pour interdire d'aller manifester en dissimulant son visage. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai assisté à des... En tant que syndicaliste, j'ai organisé des manifestations, j'en ai fait. Je ne me suis jamais caché.
Oui.
Comment on peut imaginer qu'on puisse aller manifester en ayant une cagoule sur la tête? C'est pas normal.
Bah, moi, ils te répondent tout simplement, c'est pour se protéger des gaz lacrymogènes.
Ouais. Non. Cagoule, moi, je suis désolé. Quand tu vas manifester, que tu as une bonne raison pour manifester, tu n'as pas besoin de te cagouler et tu n'as pas besoin de provoquer les CRS et tu n'as pas besoin de casser des vitrines. Voilà.
Après, tu dis que aujourd'hui, le samedi, c'est un jour de manifestation violente. Mais en même temps, c'est ce que nous montre aussi BFM TV, ITL, etc. Parce que quand tu vas voir dans certaines campagnes, dans certains endroits, même comme chez nous, tu vois, il n'y a pas non plus, c'est pas à feu et à sang.
Oui,
mais... Il y a des gens qui ont, qui ont des revendications légitimes. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut que le mouvement maintenant trouve un deuxième souffle. C'est-à-dire que ces gens qui sont en manifestation... Il faut qu'ils trouvent. Alors, ils ont du mal à se lancer dans la politique, par exemple. Ils essayent.
Mais ils n'y arrivent pas.
Ils
se font démonter par leurs collègues.
Oui, ouais. Puis ça ne prend pas. Puis c'est compliqué de représenter l'intégralité des revendications.
C'est
dur.
Et qu'ils en ont un qui passe devant.
Il est trop de revendications.
Il leur coupe les jambes.
Mets-toi à la place des Parisiens ou des professionnels.
Bien sûr qu'ils nous
aident. Des professionnels qui se barricadent tous les samedis.
Mais bien sûr.
C'est intenable.
Non, mais je dis pas qu'il faut l'ignorer. Je dis juste que ce n'est pas que ça.
Non, mais. Arrive un moment, il faut passer à autre chose.
Oui.
Je pense, en toute sincérité.
Mais quoi ?
La question, c'est quand vont-ils arrêter ? La CCI de Montpellier a embauché pour ce week-end 130 vigiles pour aller sécuriser les commerçants en centre-ville. Non mais on marche sur la tête, quoi. On est obligé d'aller payer des mecs pour que les gens puissent sécuriser les lieux, pour qu'éventuellement, il y ait des clients qui viennent...
Parce qu'il reste les plus durs dans la rue, là.
Eh ben oui.
Non, c'est pas les plus durs.
Ah, mais à Paris, il en reste à Toulouse, il en reste
aussi,
à paquet.
Il y a aussi
quand même
le phénomène de rattrapage politique. Et ah ça, bah,
mais
ça,
là, on est en plein dedans. De toute façon, ça a commencé sainement, et puis ça a vite basculé. Hein. Ça a vite basculé à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Alors, c'est quoi ? C'est plus la gauche, plus la droite ?
Non, mais ça,
bah,
c'est
plus les non, bonne question.
Non, mais ça, c'est un faux débat.
Ah, ben non !
C'est plus les
gauches. C'est un faux débat.
Non, c'est un faux débat.
Ah, ben alors, qui est plus dedans ? La droite, la gauche ?
Mais non, mais c'est aujourd'hui, ça dépend de quoi on
parle.
Mais
tu peux pas l'identifier,
ça. Les tarés, si tu veux, qui aujourd'hui pètent des vitrines, c'est pas forcément des gens de droite ou de gauche. C'est des gens extrémisés, c'est des gens radicaux, qui peuvent être d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais globalement, c'est surtout des gens qui veulent péter le système, qui en profitent. Donc moi, je pense que la gauche, la droite, ça a quand même des valeurs républicaines. Les extrémistes de ce type-là, ça n'a pas des valeurs républicaines. Donc c'est ça la différence. Moi, je pense qu'il y a d'un côté les républicains, qui, même d'ailleurs parmi les gilets jaunes, qui aujourd'hui revendiquent des choses. Et t'as des gens qui viennent profiter de tous les mouvements pour exprimer des idées extrémistes, mais pour péter le système, parce que c'est ça qui compte pour eux.
On a quand même des vedettes, quand même. On a quand même des vedettes.
Mais parce qu'on les a choisis. Enfin, parce que les médias les ont choisis.
Entre Drouet.
Oui, mais les médias les choisissent. Tu prends les plus timbrés et tu les mets devant des caméras.
Non, mais là, c'est pas les plus timbrés. C'est ceux qui se revendiquent du mouvement.
Éric Drouet.
Oui,
mais ils sont pas le mouvement.
Éric Drouet, c'est celui qui a dit qu'il quittait la France.
Non.
Parce que lui, il peut partir.
Lui, c'est Fly Rider.
Ouais, c'est
Fly Rider qui va quitter la France, un champion du monde. On a, bon, lui, on n'en parle pas. Éric Drouet, c'est les révolutionnaires 2.0, donc à la maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a touché le fond. Comment il s'appelle celui-là ? C'est Christophe Chalençon.
Ah ben non.
Alors lui, c'est champion du monde. Je vous propose d'écouter.
Il faut beaucoup là. Moi, je peux me prendre une balle dans la tête à n'importe quel moment, mais j'en ai rien à foutre. J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, le peuple, là, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Élysée, il démonte tout. lui, sa femme et toute la clique. On est plusieurs comme ça. On a des gens, des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit. Donc c'est soit il y a une solution politique très 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 rapidement, parce que derrière, il y a des gens qui sont prêts à intervenir de partout.
Non mais, quand vous avez des ânes, pareilles, qui se revendiquent d'un mouvement, que c'est compliqué quand même. Mais moi, c'est compliqué pour la crédibilité du mouvement.
Moi, si tu me dis qu'il a trouvé la notice de démontage de Brigitte Macron, je sais pas si Manu l'a trouvé, mais sans déconner, il y a du souci à se faire. Hein. Donc, c'est des mecs qui sont prêts. En plus, en tenue paramilitaire. Je te laisse voir ça à l'Elysée. Excusez-moi, elle est où la notice? J'ai une clé. La clé de douche, je demande Brigitte. Oh, ça, il est furieux, lui.
En l'occurrence, en plus
non,
de
ça... Non, mais toi, il faut avoir de l'indulgence, parce que là, de l'amnistie, il faut de l'indulgence. Il faut faire du cas par cas. Parce que lui, en fait, tu rétablis la peine de mort directement. Et les autres, tu peux les amnistier. Voilà. Mais sans déconner, c'est quoi ça?
C'est un champion du mécano.
Bon, ce qui m'amuse, c'est qu'il reformule en disant, mais de toute façon, si je suis abattu, si je prends une balle dans la tête, j'en ai rien à foutre, je continuerai jusqu'au bout. Il y a un concept d'immortalité là, extraordinaire, quoi.
Ah, c'est pire que Jupiterien, il est Zeus, le mec. Il se prend la foudre,
je savais. Je savais que ça allait vous faire réagir, mais je sais pas.
Non, mais il est très bien celui-là.
Ah oui.
Non,
mais il est gratiné.
Ce qui est grave dans le mouvement, c'est qu'aujourd'hui, on est à quelques mois d'élections européennes, mais je veux dire, on n'en parle pas. Les autres partis politiques sont inexistants. On voit Macron qui se débat dans le grand débat public.
On va en revenir là-dessus.
Mais sur lui là. Juste sur lui.
On revient juste après. On revient sur Chalençon.
Faut plus parler de lui.
Le temps de marquer. Allez, bougez pas. On revient dans un instant. La suite du Coq à l'âne.
Du Coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Allez, nous sommes de retour autour de la table avec Christophe Pirenne, notre invité aujourd'hui, Jean Cointe, Bruno André, Patrick Faure, Michel Roustel, tout le monde est là. C'est une prière. Alors nous avons donc Christophe Pirenne qui voulait réagir sur le petit gars qu'on avait entendu auparavant, donc qui s'appelle Chalençon.
Non, je voulais juste dire que ce mec n'est pas représentatif de quoi que ce soit en fait, il est représentatif de lui-même et d'une communauté qui se crée autour de lui, mais... Pour en revenir à une discussion qu'on avait du coup hors micro, le problème fondamental de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de partis, plus de syndicats, il n'y a plus de corps intermédiaires, et que
existent toujours, mais ils ne sont pas écoutés.
Ils ne sont pas écoutés, et puis ils ne sont plus crédibles pour certains, parce qu'ils ont échoué.
Ils sont échoués.
Et donc, si tu veux, le vrai problème, Macron les a tués, il a fait en sorte de ne pas les avoir. Alors du coup, effectivement, il se retrouve avec les Français en direct. Quand il disait « moi, je veux parler directement aux Français », les Français lui parlent directement. Mais du coup, t'as pas la possibilité de transformer, si tu veux, en un fait politique avec des idées, des choses qui émergent. Donc ça reste totalement disparate avec tout d'un coup quelqu'un qui se travaille sur Internet mais qui dit « je suis représentatif des gilets jaunes ». Ils le sont pas. Aucun, en fait, ne l'est. Et les revendications qui sont portées, elles sont tellement diverses que du coup, t'as du mal même à le rassembler derrière un projet, un programme, quelque chose d'idéologique. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a un vrai désarroi, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de Français qui, quand même, à un moment, ont pris le gilet jaune parce qu'ils en avaient marre, de ne pas pouvoir boucler les fins de mois, qu'il y a une réalité sociale derrière. Aujourd'hui, c'est en train de virer. Mais il ne faut pas oublier l'origine du mouvement, il ne faut pas oublier la colère des gens, parce que sinon, sur les européennes notamment, ça va se traduire par un vote, mais qui va être, à mon avis, assez impressionnant pour notamment le Front National. Parce que ça reste le dernier... Le seul parti où les gens se disent, bah eux ils n'ont pas essayé.
On n'a pas encore essayé.
Eux de toute façon ils nous écoutent. Donc moi j'alerte tout le monde. On est en train de préparer une élection européenne qui va être cataclysmique.
Voilà. Tout à fait.
Et pour la suite, rien n'empêche. Quand tu vois quand même qu'à un moment Richard Ferrand, quand il nomme Alain Juppé au Conseil constitutionnel, il explique ça en disant que si jamais les extrêmes devaient prendre le pouvoir, il faudrait que le Conseil constitutionnel soit fort et protège la République.
Ouais.
Ça veut dire qu'à un moment, on anticipe maintenant le fait que ça puisse arriver. Mais c'est dingue. En 2002, était dans la rue contre Jean-Marie Le Pen en se disant que c'était impossible. Il était à 15%. Tu vois le chemin qui se passe. On n'a toujours pas renoué avec ces gens qui sont dans la rue aujourd'hui.
Voilà. Je vous propose d'écouter une analyse intéressante de Jean-Michel Apathy. C'est ce que tu viens de...
Une analyse importante, un peu...
Intéressante de Jean-Michel Apathy.
Eh ben dis donc.
Oui.
Comme quoi, il arrive encore des miracles.
Eh ben oui, regarde, écoute bien ce qu'il dit.
Écoutez Alain Juppé, posons ce constat, beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire beaucoup de citoyens, disent que les hommes politiques sont égoïstes, sont cyniques, voire qu'ils ont pris dans la caisse, donc qu'ils sont corrompus, voire pourris. Et quand on a ce constat en tête, on va écouter Alain Juppé, c'était hier, il quittait la mairie de Bordeaux, et écoutez le sanglot.
C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.
C'est dingue, hein.
Première question, est-ce qu'il est sincère Alain Juppé quand il a ses sanglots? Évidemment oui. Est-ce qu'Alain Juppé, maire de Bordeaux depuis 1995, a servi honnêtement les gens de la ville qu'il dirigeait? Évidemment oui. Aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire de dire d'un homme politique qu'il est sincère et qu'il a été honnête. Parce qu'on a le sentiment de l'inverse. C'est une faiblesse de l'esprit.
Il a eu ses histoires, Alain Juppé, quand il était avec Chirac, etc. Mais
il en a eu, il a payé.
Voilà.
Il a couvert Chirac, pour dire les choses.
Il était dans le système aussi. Oui,
absolument. Absolument.
Oui.
Mais enfin, Alain Juppé a été un dirigeant politique honnête et de bon niveau. Et aujourd'hui, il y a une lâcheté de l'esprit à ne pas vouloir le reconnaître. Et il faut mettre chaque citoyen en garde parce qu'à force de creuser ses mauvais sillons là, un jour, il pourrait nous arriver.
Il sort par la grande porte aujourd'hui, vous voulez.
Aujourd'hui, Alain Juppé sort par la grande porte. Quel est l'état de notre démocratie? Très mauvais, écoutez Alain Juppé.
L'esprit public est devenu délétère. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
C'est pas gai, mais c'est juste. Mais dans ce constat-là, les élus ont une part... Dans le point d'arrivée, qui est celui que décrit Alain Juppé, les élus eux-mêmes ont une part écrasante. Pour aller du moins grave au plus grave, l'absentéisme dans les assemblées, c'est un poison dans les démocraties. On ne comprend pas que des gens élus ne siègent pas dans les lieux où ils ont eux-mêmes voulu, évidemment, aller. Il existe en France un sentiment d'impunité vis-à-vis d'élus qui ont triché et parfois volé. Les campagnes électorales récentes, disons dans les 20-30 dernières années, ont été tellement mensongères que les gens se sont mis à douter de manière presque systématique. Et il y a eu tellement de promesses faites n'importe comment et puis qui ensuite, bien sûr, n'ont pas été tenues parce qu'elles étaient intenables, que le doute s'est installé. Et aujourd'hui, c'est ce que dit Alain Juppé. La méfiance entre les élus et les électeurs est immense.
Alors, je sais, je te vois faire des bons, etc.
Je me disais aussi, Jean-Michel Apathy, une analyse pertinente.
Eh oui, je trouve que son analyse est pertinente.
Mais non, pas du
quand
tout.
Tu as bondi quand il a dit.
Pas du tout.
Il a quand même couvert Jacques Chirac. Tu sais très bien comment ça s'est passé.
Oui.
Bon,
très bien.
Ça a été le tampon. C'est lui qui a pris la tôle. C'est lui qui a pris. C'est lui qui a tout pris.
C'est lui qui a fait. Il habitait à l'époque quand il était à la mairie de Paris, là-bas, à logement social.
Mais bien sûr, mais tout à fait.
Non, mais il y a d'accord, un moment où, effectivement, okay. Mais il a payé sa dette, mais qu'on ne dise pas que c'est le mec le plus honnête et le plus droit de toute la Ve République. Parce
non,
que ça,
il
ça,
a bon. Pas, c'est ce qui pas, non, mais, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il avait bien bossé pour la ville de Bordeaux.
La deuxième chose, c'est que si Alain Juppé était un mec courageux, il y a un moment où, quand François Fillon était en débâcle, il aurait pris ses responsabilités, il serait devenu candidat à l'élection présidentielle, ce que son parti lui demandait, il aurait pu... peut-être prendre la responsabilité.
Pas
il
n'arrivait
pas.
Il était
oui,
trop.
Oui, mais d'accord, mais sauf
il
que pouvait
pas.
Là,
il a pas voulu, pas voulu se retirer.
Juppé a renoncé à ça. Juppé a renoncé à ça. La troisième chose, c'est que quand tu vois le cataclysme que c'est à Bordeaux, moi je veux bien qu'il aime sa ville, mais enfin, il s'en va au Conseil constitutionnel. Sa première adjointe, elle démissionne dans la foulée, Calmels, et ils vont mettre quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à diriger une ville pour en tant que maire, l'adjoint aux finances. Moi, excuse-moi. Mais si c'est ça, être responsable, être élu local responsable, je comprends pas. Donc après, qu'il veuille finir sa vie tranquillement, sous les ordres de la République, au Conseil constitutionnel, dont acte, c'est pas un problème, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais qu'on nous vende pas ça sur le thème, il est extraordinaire pour la République, pour la France. S'il avait une telle vision, il a été Premier ministre.
Ouais.
Les institutions, il aurait pu les changer. Si les élus locaux étaient tellement décriés qu'on aurait pu effectivement faire mieux, il pouvait changer les choses.
Moi, je suis super content parce que là, au moins, on voit le vrai visage de Christophe Pirel.
Mais c'est très important.
C'est pour ça. J'étais parce que je trouvais un petit peu trop consensuel, trop. Tout à l'heure, c'est juste, il n'a pas dit qu'il allait voter Macron. Et donc, j'ai dit non, ce mec est en train de rouler dans la farine. Il faut que je lui mette.
Alain Juppé, c'est quelqu'un quand même qui à un moment, moi je suis pas chez les Républicains, mais j'aurais quand même assez mal vécu régulièrement, si tu veux, d'être militant les Républicains et d'avoir, mais les gens peut-être connaissent mieux la machine, Mais d'avoir quand même un mec qui régulièrement vient te donner la leçon sur la vie, comment ça marche et tout, et puis une fois que ça commence à
comme
chauffer, Hollande. Il s'en va. Mmh,
tu as raison. Non, mais il est un petit peu comme Hollande.
Non, non, parce que François Hollande, si. Il a été président de la République et pas Alain Juppé, je suis navré. Donc il y a un moment où lui, il a été jusqu'au bout, il a gagné une élection. Ah,
mais bah lui, il voilà. s'est pas présenté.
Voilà. Mais oui, mais si, il a tenté.
Non, il ne s'est pas présenté. Moi, j'ai jamais vu un bulletin avec Alain Juppé.
Il faut dire que François Hollande est arrivé sur un coup de malentendu, quand même.
Non, mais il a gagné une présidentielle.
Comme Macron.
Mais comme.
Non, mais c'est vrai.
Mais globalement.
Je voudrais l'avis d'un gaulliste.
Juppé est un garçon très brillant qui a fait ses armes il y a très longtemps. Je pense qu'il a une formation d'énarque, bien entendu.
Oui, bien sûr. Tout à fait.
Et c'est un bon commis de la République. Et effectivement, le fait d'accepter une nomination au Conseil constitutionnel constitue un peu le couronnement final de sa carrière, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire du droit, parce que le Conseil constitutionnel, c'est ça, si je puis me permettre, c'est une institution qui a été décriée pendant très longtemps, jusqu'à un fameux arrêt de cette fameuse Cour constitutionnelle du 16 juillet 1971, pour la première fois. Ce Conseil constitutionnel se mettait en contre du pouvoir en place en déclarant illégal une disposition de loi relative aux droits de l'association, c'est-à-dire aux droits de création des associations, qui n'a pas besoin de déclaration préalable pour être acceptée, dans la mesure où elle n'est pas contraire à l'ordre public. Donc petit à petit...
Heureusement que tu as fait du droit. Hein.
Ce Conseil constitutionnel a acquis ses lettres de noblesse en sanctionnant systématiquement les dispositions qu'il ne considérait pas comme favorables, tout au moins conformes à la Constitution. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne et qui est indispensable à notre système constitutionnel, à nos institutions. Et c'est bien que des gens comme ça
soient nommés à l'intérieur.
Mais attends, mais qu'on soit clair, je trouve que pour le coup, c'est un. Sans doute, ça sera sans doute un très bon membre du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il en a le profil, il en a le bagage intellectuel, il en a la capacité. Ça sera, mais qu'on soit clair, je ne dis pas que ça sera un mauvais membre du Conseil constitutionnel. Et en plus, je suis d'accord avec toi, Jean, c'est le Conseil constitutionnel, notamment depuis Debré, a pris un envol quand même assez extraordinaire. Debré, maintenant Fabius, je pense qu'on a là une autorité totalement indépendante et qui examine la Constitution à chaque fois qu'il y a une loi qui passe et qui est intransigeante, donc ça c'est vraiment important. Mais je dis juste que nous vendre aujourd'hui Alain Juppé comme l'alpha et l'oméga de la fonction politique et de l'élu local...
Il n'a pas vendu comme ça,
non,
arrête
non, là tu exagères et tu reprends ton
bâton de parti socialiste. Oui,
voilà. Mais pas du tout, j'en suis passé le parti socialiste,
il y a juste à convenir que Fabius au Conseil constitutionnel aussi, c'était pas non plus la panacée. Quoi.
Ben bon,
voilà, on en parlera dans 20 ans.
C'est un bon président du Conseil constitutionnel.
Moi, ce qui m'intéresse,
c'est de rajouter que ce Conseil constitutionnel ne fait pas concurrence au Conseil d'État. N'a rien à voir, justement. A une fonction éminemment de juriste, de créateur de loi, et surtout de donner des avis favorables ou défavorables sur telle ou telle disposition de loi. Donc c'est un travail complémentaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un vice-président qui est exécutif dans cette belle institution du Conseil d'État. Mais par contre, le président en exercice, c'est le Premier ministre qui, par définition, ne peut pas siéger, ne siège jamais. C'est pour les auditeurs, on va dire. Le Conseil d'État...
C'était intéressant de le signaler.
Après, on est quand même doté... Moi, mon point de vue a un petit peu évolué parce que je pensais que le Sénat servait à rien. Mais le fait d'avoir une double assemblée, c'est quand même aussi un pare-feu quand même qui est assez important aussi au niveau des...
Niveau des lois, tu veux dire ?
Des lois, oui.
Ah, mais de toute façon, en plus, aujourd'hui, le Sénat... tel qu'il est fait avec en premier groupe les Républicains, le deuxième groupe, le Parti Socialiste, a plutôt une tendance à être utile dans le contre-pouvoir.
Voilà,
ça marche particulièrement bien.
Oui, mais enfin, souvent,
le bicamérisme marche vraiment bien quand c'est pas les mêmes partis.
Souvent, tu as la même chose aussi.
Ça veut pas dire qu'il
faille quand c'est la droite au pouvoir. Souvent,
ça veut pas dire qu'il
faille la gauche.
Ça arrivé une fois dans l'histoire.
Ah ben, trois ans. Et ben voilà.
Ça veut pas dire que nous n'ayons pas besoin d'une réforme des institutions. Parce que je pense qu'on pourrait quand même... Et ça, c'est une demande aussi des Gilets jaunes. Et c'est une demande...
Des Gilets jaunes.
Mais t'as raison.
C'est une demande des Gilets jaunes qu'on apure un petit peu cette classe politique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre justement la classe politique et les citoyens lambda. On a l'impression... Et comment il s'appelle il en parlait tout à l'heure dans sa chronique.
Apathy.
Il en parlait, il disait, il y a un décalage. Oui, les gens, ils supportent plus de voir ce gaspillage d'argent public, ses profits.
Sauf que
c'est dommage que Macron ne soit pas attaqué à ça.
Non, mais ça, c'est démago.
Parce que c'est démago. Non, mais
la question de l'Assemblée nationale, les images prises à 2h du matin.
Oui,
c'est démago. Non, mais ça, je suis d'accord.
Oui, on est d'accord. Personne, parlementaire ou pas, ne tient de 8h à 3h du matin.
On est d'accord.
Le mandat unique.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
Pourquoi il n'a pas fait...
Non, mais alors,
pourquoi il n'a pas fait...
Là où je suis d'accord en revanche avec toi, c'est qu'il faut réformer les institutions sur l'intégralité. La Ve République aujourd'hui, telle qu'elle est constituée, de toute façon, elle est vieillissante et elle est morte. Parce que tu vois qu'à chaque fois, un an après l'élection, le président de la République, il est carbonisé et que l'intégralité des parlements ne peuvent pas fonctionner. Donc il y a un problème en France.
Jeannot.
Oui, mais on s'y attaque pas.
Jeannot. J'attendais que monsieur le représentant du Pays-Bas s'arrête.
J'appelle le Pays-Bas, vous.
C'est l'autre pays du fromage.
Je voulais simplement citer... Guizot qui disait devant un parterre de parlementaires et puis surtout de constitutionnalistes au XIXe siècle que le bicamérisme permettait d'avoir d'une part la chambre basse qui serait l'imagination de la République, c'est-à-dire un foisonnement d'idées nouvelles, et le Sénat qui serait au contraire la raison de la République, c'est-à-dire un contrepoids, un contre-pouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Sénat joue son rôle à plein, alors que pendant des années, on l'a contesté.
Oui. On a même voulu le supprimer.
De Gaulle a voulu le supprimer dans le cadre du référendum du 27 avril 1969.
Je voudrais vous parler d'une autre chose maintenant. Macron profite-t-il du grand débat pour mener campagne électorale déguisée?
Certainement.
Il faut arrêter, parce qu'on a quand même des élections qui s'enchaînent de longues. Il y a toujours quelque chose à venir. Et, je veux dire, le gars qui reste dans son boulot, que ce soit Macron ou qui que ce soit... quelle politique que ce soit, on va toujours lui dire, dès qu'il commence à se positionner dans la société, il est en campagne pour l'échéance d'après. Quoi.
Ouais.
Donc je crois qu'il faut arrêter ce genre de conneries.
Il va y avoir un vrai sujet, c'est que Sarkozy, quand il s'est fait retoquer ses comptes de campagne, c'était exactement sur ces raisons-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des discours qui étaient organisés par la présidence de la République dans les territoires avec un aspect bilan là, et prospectif.
Ah non, mais ça, c'est la logistique que tu mets en place pour ta
prochaine. Là, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Là, ce sont des débats. Il se déplace, il va discuter, machin, etc. Alors, ceux qui sont pour Macron disent « Ouais non, c'est vachement bien et tout, c'est super, on le voit, machin, etc. » Ceux qui sont contre disent que c'est un truc déguisé.
Non, mais en termes de droit, simplement.
Mais en termes de droit, là,
à partir du moment où il fait le bilan de son mandat, qu'il explique sa politique et qu'il en fait la promotion... C'est comme ça que c'est encadré.
Il ne fait pas le bilan de son mandat. Il explique et répond aux questions qu'on lui donne.
Oui, oui.
Non, mais attends, c'est important. Les mots ont un sens.
On verra bien ce que dit le juge.
Moi, je voudrais poser une question. Faire le bilan de mandat, c'est pas préparer des élections européennes.
Non, mais c'est comme ça que c'est prévu dans le texte de loi. Moi, j'y peux rien.
Alors, si demain...
Thierry, s'il te plaît. Où en sont...
Ta gueule.
Pendant ce temps, où en sont les autres partis?
Mais le problème, c'est
qu'ils sont inexistants.
Évidemment,
Macron,
il n'y a plus une seule idée qui sort en France d'un parti politique.
Oui, mais Macron, il utilise la place qu'on lui laisse.
Voilà. Mais non, mais que ce soit Wauquiez, mais tous en fait.
Wauquiez.
Mais non, mais t'as plus une idée qui a émergé. Mais pourquoi? Parce que les gens se constituent en parti et aujourd'hui, ils ne sont plus capables de réfléchir sur le long terme à l'avenir de notre pays, à avoir des idées, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, tu les entends à peine sur de la mobilisation contre, mais ça ne fait pas un projet de société. Et le projet de société, si tu veux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, on pouvait quand même lui faire un reproche, c'est de ne pas avoir un projet de société. C'est-à-dire qu'il y avait une vision de l'économie, avec notamment les richesses qui doivent redescendre. C'est une vision, mais purement économique. Il n'y a pas, pour moi, une stratégie de société. Les partis politiques, que ce soit les Républicains d'ailleurs, ou le Parti Socialiste, ou tous les autres d'ailleurs, ne pense plus la société sur le long terme. Ça fait très longtemps. Et d'ailleurs, ça date pas de 2017. Ça fait 20 ans qu'on a arrêté.
La seule chose qui nous intéresse, c'est
de savoir comment ils sauvent leur mandat. Avec ça, tu fais pas un projet.
Si demain, tu avais des partis politiques qui prenaient la parole régulièrement pour faire des propositions
pour
démonter, ils commenceraient à être réentendus.
Le problème, c'est que c'est long.
C'est très long. Mais
ils n'ont peut-être pas d'idée.
Je veux dire, il y a quelque chose à reconstruire. Mais on ne peut reconstruire que sur du positif et que sur des propositions.
Parce qu'ils sont
tous les jours tu fais des propositions,
je vais donner la parole.
Tu as entendu.
Parce qu'ils sont dans un temps court permanent. Ils sont impossibles de construire.
Il faut sortir.
C'est ce que tu
il
disais.
Sortir
il passe d'une élection à l'autre.
Mais bien sûr, c'est l'investiture qui compte.
Ah, c'est ça.
Bon.
Foutons la paix maintenant. Ça suffit, non?
Oh.
On a aussi une vie privée.
Michel.
Oui.
Non, parce que je voudrais bien quand même pouvoir.
Non, je suis un peu dépassé par le débat.
Non, c'est non, non. Que, est-ce que tu penses que Macron profite donc de ce grand débat pour mener sa campagne pour les européennes?
Alors c'est peut-être. Moi je le ressens pas tout à fait comme ça, puisqu'aujourd'hui il est au service de ce grand débat sur lequel on ne sait pas trop ce qui va sortir. Je pense qu'aujourd'hui même il a déjà les réponses. Bon, forcément je suis de mauvaise augure, mais ça a le mérite d'exister. Ça c'est la première chose. Après, comme vous l'avez évoqué, le monde politique est relativement sourd et muet parce qu'il devrait être force de proposition. Sauf qu'aujourd'hui ils sont complètement discrédités par une grande partie de la population, de la nation même. Et que derrière, il faut trouver ce que tu viens de dire, Christophe, un nouveau projet de société. Un nouveau projet de société, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Est-ce que, je peux me permettre de dire, et forcément à tort, parce que je n'ai pas fait d'études dans ce domaine, c'est que Macron, tout brillant, un homme exceptionnel, veut créer un édifice moderne dans l'avenir sur des fondations qui sont chancelantes. Le gros risque de ça, c'est tant qu'il n'y a pas de séisme, tant qu'il n'y a pas d'ébranlement, parfois il peut réussir. Le jour il y aura un séisme, ça coûtera très cher. On sera, je ne sais pas jusqu'où on ira.
Vous êtes très branlé.
Voilà, pardonne-moi d'avoir pris ce terme-là qui suscite.
Tu sais qu'avec Jeannot, il faut éviter ce genre de terme.
Il y a certains mots à ne pas dire.
C'est comme ça, c'est dire par exemple, je ne sais pas moi, troublé.
Ouais. Non, c'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, oui.
C'est plus ça.
Ça a suscité chez Jean une réaction.
Une réaction.
Une réaction.
Ça faisait longtemps.
Putain, il a bougé. Oh, bah, c'est
juste. Pour terminer. Jeannot, tu peux.
Pour terminer.
Tu peux aider dans l'autre sens, s'il te plaît.
Allez,
pour terminer, Manu, il met des rustines sur des rustines. Je parle pas de.
Non, oui, non, on avait compris.
La défaillance de l'organe, de l'État.
Oui.
Là, tu parlais pas de Brigitte, on est d'accord. Hein. En parlant de rustines.
En parlant
je sais pas, elle a du silicone partout, donc pour le coup, ça peut être utile.
Donc,
ça va mal cette émission.
Non. Autre.
Ça part en couille.
Voilà.
Pour moi, c'est dit.
Qu'est-ce que tu voulais là,
je te dis.
Là, je crois
c'est ce qu'on appelle le burn-out.
Ah, mais. Je crois que le burn-out.
Burn-out.
C'est ce que je voulais dire.
Tu me déçois énormément.
Je te le dis, tu me déçois. Autre sujet qui ne fait pas rire, hein, c'est la recrudescence d'actes antisémites sur le territoire.
C'est sûr. Oui.
Donc, ça, c'est vraiment pas drôle. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire, mais prenons le portrait de Simone Veil pour faire notre Marianne.
Mmh. Oui.
Je trouvais que ce serait une excellente idée. Absolument, ce serait vraiment une excellente idée, une grande dame. Et on a donc fait un sondage sur Alpe 1 et les résultats sont tombés et j'étais le premier surpris, puisque 51% des votants, hein, c'est pas représentatif, c'est pas un sondage comme la Sauffresse, mais 51% de ceux qui ont répondu à la question pensent que non, ce serait pas une bonne idée, contre 44% qui pensent que oui.
Moi, je trouve quand même ça a été quand même une grande dame de la République,
ben ouais,
avant d'être une icône juive. Quoi,
oui. Enfin,
ils sont en train de le faire croire.
Des Mariannes, il y en a eu pléthore.
Mais
et
oui,
pour le coup, c'était très souvent des personnes
du
peuple qui avaient une
business, du show business.
C'était Mireille Mathieu, c'était Laetitia Casta,
Brigitte Bardot.
C'est Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Voilà, donc moi, je trouve que...
Il y a la présentatrice qui s'appelait Thomas.
Oui, oui.
Evelyne Thomas.
Evelyne Thomas, c'est quand même assez pathétique. Moi, je pense qu'un symbole de la République française, Simone Veil, serait quand même magnifique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Si je peux me permettre une critique des sondages en ligne, j'en suis navré, c'est sur ton site, mais globalement, ils sont complètement pris par notamment les groupes d'extrême droite qui sont actifs sur les réseaux sociaux.
Raison,
et dès qu'il y a ce genre de
c'est
sondage,
vrai que c'est compliqué.
J'espère j'espère que c'est pas
représentatif
de la France.
Non, mais bon, ça fait de la peine.
Il y a des choses quand même qui sont très inquiétantes. Quand tu vois qu'un Français sur 10 dit ne jamais avoir entendu parler de la Shoah,
par exemple. Ah oui, bien sûr.
Il y a des choses comme ça qui devraient nous alerter.
20% des Français croient à 5 théories du complot sur 10.
Oui, bah tu vois, exemple. Non, mais c'est exactement ça. Alors, ce qui est intolérable, c'est aujourd'hui qu'on s'attaque à une partie des Français.
Oui.
Français. En raison de leur religion. Et que ça soit, quelle que soit leur religion. C'est qu'à un moment, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois hindou,
protestant,
tout ce que tu veux, la République, elle doit protéger
tous ceux qui ont envie bouddhiste. De pratiquer, c'est bien, ça, à partir du moment où ils le pratiquent librement et dans le privé, etc., c'est le principe de la laïcité. Mais la République, c'est justement ça, quoi. Et là où on touche, on touche un... Oui, bien sûr, tu peux être athée, non-croyant.
À café,
quand,
à café aussi.
Quand tu touches à un juif, quand tu touches à un musulman, à un catholique, etc., en raison de sa religion, eh bien... Tu touches à la République, c'est-à-dire que tu touches aux valeurs fondamentales de ce que c'est que la
c'est
France.
C'est pas la première fois, puisque dès 1936, on a eu une montée de l'antisémitisme qui a eu son paroxysme dans la période 40-44.
Après, voilà. Ça a quand même été un peu violent. C'est quand même
inquiétant, donc il faut non, mais c'est pour ça que je te dis, je suis très inquiet et très préoccupé, que d'abord parce que les Juifs n'ont plus le sentiment de faire partie de la communauté française, et ne pensent pour la plupart d'entre eux que d'immigrer en Israël, parce qu'au moins ils seront chez eux. Alors on va perdre beaucoup de compétences, beaucoup de gens qui ont fait la France moderne telle qu'elle est, par leur savoir-faire, par leur intelligence, on va dire, parce que c'est quand même le peuple élu, moi je considère que c'est des gens qui sont particulièrement brillants dans bien des secteurs.
Et puis par leur engagement aussi.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a une montée concomitante de l'islamisme qui vient donc... tout parasité.
Mais c'est pas forcément. Là, je suis pas d'accord avec toi.
Non. Moi, je trouve qu'on mélange les sujets, là.
On est dans un temps de crise.
Le sujet départ, c'était est-ce que Simone Veil doit être la nouvelle.
Oui, mais en Marianne. Le sujet derrière.
Moi, ça me ferait plaisir, mais ça résoudra pas le problème.
Non,
mais
d'accord.
Alors, moi, je fais la corrélation, si tu veux, entre le temps de crise dans lequel on est, c'est-à-dire qu'il y a une crise économique, il y a une crise sociale, qui est d'ailleurs l'expression. Enfin, les Gilets jaunes en est l'expression. Dans tous les moments de crise, tu vois effectivement l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme dans son ensemble monter. Parce que, hélas, c'est une réaction humaine
de
rejeter la responsabilité sur l'autre. C'est-à-dire que le responsable, c'est le riche, le responsable, c'est le pauvre, le responsable, c'est l'immigré, le responsable, c'est le juif, le responsable,
c'est celui qui n'a pas la même religion.
Non, mais évidemment. Et donc, le problème, c'est la crise qui est au cœur de ça. C'est pas... On peut rejeter ça. Si on veut se dédouaner de tout, on dit que c'est la responsabilité de l'islam, etc. Mais ça, c'est un pan. Mais la montée de l'islam, la montée de l'islamisme, parce que radical, parce que moi, je fais toujours la différence entre l'islam et l'islamisme radical. L'islamisme radical, il monte pourquoi ? Pour les mêmes raisons. Pour des raisons de crise. C'est-à-dire que tu as des gens qui s'extrémisent, comme le taré qu'on entend tout à l'heure dans l'extrait de Thierry. C'est des gens qui... vont devenir des radicaux, que ce soit dans leur religion ou dans leur prise de parole. Et c'est ça qui devient intolérable dans notre pays, parce qu'on n'arrive plus à juguler la crise et à faire en sorte que le mouvement qui va être accompagné de ça ne soit pas empreint de haine et de rejet et de violence.
Moi, j'en ai plein le cul qu'on fasse chier les juifs en France. Non, c'est vrai, non, je vous dis les choses, franchement, il y en a marre. Parce que c'est des gens qui sont respectables.
Mais bien sûr, évidemment.
Et d'une manière, ce sont des Français surtout.
Mais tu as raison de mettre les pieds dans le plat.
C'est d'une manière, ça suffit.
Ce sont des Français.
Ça suffit.
Ouais, ça suffit.
Ça suffit. Ouais. Thierry, je tenais à dire juste une chose.
Oui.
En juillet,
tu as beaucoup parlé.
En juillet 1968.
C'est un peu l'invité.
En juillet 1968, il y a eu effectivement une loi d'amnistie.
Ah, bah, j'ai vérifié.
Donc, c'est bien ce que je te disais.
Mon père est prof d'histoire.
Mais ça s'est passé après.
En juillet 68.
Voilà, on ne l'a pas dit avant.
Troisième loi d'amnistie, de la 5e République.
Voilà, ça ne s'est pas dit avant, ça s'est dit après.
La première, c'était au moment des événements d'Algérie en 63-64. Pour l'OS en particulier.
Les événements.
Et c'est pour la culture. On va se quitter parce que c'est l'heure.
C'est pas trop tôt. Hein.
Je pense que.
Réclamer sa soupe.
Dimanche.
À midi, mange de la soupe.
Il va à la messe.
Dimanche prochain.
Je vais à la messe, oui.
Dimanche prochain, on reviendra sur cette théorie du complot parce que c'est quand même assez étonnant de voir le nombre de Français qui pensent que, effectivement, il y a des complots un petit peu partout. Je voudrais seulement saluer Enrico Macias. Enrico.
Comme t'es beau, mon fils.
Qui a chanté au Maroc. Qui a bravé les manifestants. Le chanteur d'enfants de tout pays a tenu parole jeudi, malgré quelques centaines de manifestants pro-palestiniens qui brandissaient des pancartes où étaient écrits les « Dégage Macias, Jérusalem aux Palestiniens encore, dehors les sionistes », le créateur de l'Oriental
ça fait plaisir
a pu assurer son récital.
Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour
et puis le pas d'amis.
Enfants de tout.
T'aurais pu repasser l'extrait de Patrick Faure quand même sur la clé de 12.
Montage et démontage.
Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. Merci Christophe Pirel.
Merci, c'était avec grand plaisir.
Merci les gars d'être venus. Et puis ben on se retrouve dimanche prochain. Passez un très bon dimanche, bon week-end et à la semaine prochaine.